Sur mon site, j'ai fait des petites galeries où on voit une partie des diapos. Donc, à la limite, vous pouvez regarder les diapos en écoutant. Et bien, par contre, faites sur les deux sites. Si vous ouvrez les deux trucs, vous avez la conférence et en même temps, vous avez la galerie. Comme ça, vous pouvez regarder un petit peu ce que j'ai fait. Alors, par contre, c'est les trucs de l'année dernière. Et puis, j'ai pas encore vu toutes les galeries. Et peut-être que... Sinon, si vous tapez mon nom, Olivier Julien... avec deux L, et puis vous mettez art plastique, souvent vous tombez sur le site. Donc voilà, alors il y a 40 ou 50 articles, donc il faut tomber sur le bon. Et ça, j'ai mis séance audio. Sur séance audio, vous cliquez sur séance audio, et là, j'ai mis à chaque fois le titre, le lien avec le site du CESFO. Et donc la manip est un peu compliquée, c'est qu'il faut ouvrir le site du CESFO si vous voulez vous écouter, et en même temps vous pouvez faire défiler les diapos parce que j'ai mis en mode galerie, donc ils n'y sont pas tous, mais parce que sinon ça faisait trop. Mais en gros on s'y retrouve. Hein. Bonjour. Bonjour. Non.
Non.
Non, 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 l'heure. J'essaie d'expliquer. Bonjour. Non, non. Par contre, votre place est prise.
Je vais rajouter des chaises s'il n'y en a pas assez. Il y en a encore une. Il y a encore une chaise.
Ça, c'est pris.
Non, c'est mon sac.
Il y a une chaise ici.
Monsieur Séguier, oui, à sa place. Donc, je vais recommencer. J'ai pas recommencé. Continuer.
Oui. À la fin, est-ce que vous m'accordez 2 minutes pour signaler une demande sur un livre?
Allez-y.
Concernant. Ah, maintenant.
Oui.
Alors, juste, j'ai entre les mains un livre qui est intéressant, qu'il faut que je le lise complètement pour vous le conseiller éventuellement, un peu savant, qui s'appelle La pensée paysagère. Monsieur très très simple. Et on a discuté avec lui. Et c'est ce qui m'a interpellé, c'est très lié avec ce que Monsieur Julien nous dit, c'est que le paysage était rejeté par la vision dont c'était bien dit, dans la tradition en particulier chrétienne. On ne devait pas regarder le ciel, on ne devait pas regarder le paysage, on devait toujours poser la tête, regarder vers soi. Et même ça, il faut regarder à l'intérieur parce que c'est là que Dieu est. Là, c'est interdit. Alors, il y a beaucoup d'expressions comme ça. Il y a même quelqu'un qui est dans un texte qui s'est fabriqué un espèce de comportement de tissu, pas des choses métalliques pour que tu puisses toujours regarder comme ça. C'est des grands.
Des grands mystiques.
Voilà, pour ne pas regarder la lumière, du coup, d'où les vitraux
et le vrai
matelage. Pardon, je vous dirai plus. Utiliser ce livre, c'est très intéressant, éventuellement.
Et ça ferait une transition, d'ailleurs, avec les chapitres suivants, parce que justement, à la Renaissance,
c'est notre. Et la peinture est venue casser tout ça avec les Italiens qui ont
le chapitre, d'ailleurs, aujourd'hui, normalement, je devrais même faire le lien avec justement ces herbiers et ce rapport à la nature, on va dire la nature naturante, présente, bien concrète. Et je devrais commencer aujourd'hui le chapitre sur les taquinum sanitatis. Là. Et voilà. Alors, la dernière fois, j'avais surtout parlé un petit peu, si vous voulez, du principe et du dispositif, on va dire, presque technique, mais spirituel du vitrail, en montrant que c'est vraiment pensé, c'est construit, c'est vraiment une sorte de mécanique qui... d'un dispositif qui permet de placer le personnage ou les gens face justement au créateur dans un lieu dédié et avec des logiques qui sont des logiques effectivement d'élan, de ravissement, d'ailleurs au sens strict, on est emporté d'ailleurs dans la cathédrale gothique, c'est pour ça qu'on parle du vaisseau aussi, l'idée de l'ogive, la verticalité, la lumière, ce sont des choses qui vous ravissent et qui vous extraient du monde effectivement de façon assez rapide. Alors que la tradition romane était plus initiatique et plus lente. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui aussi, c'était le programme iconographique et théorique qu'on va retrouver dans une cathédrale comme celle de Chartres. L'intérêt, c'est qu'il est quasiment en entier. Alors, je ne vais pas tout faire, parce que c'est trop long, mais vous avez véritablement un contenu. C'est-à-dire que vous avez déjà un rapport, on va dire, à l'art, à la lumière, aux couleurs, au sol, au ciel, à la lumière, la dématérialisation aussi, dont je vous ai parlé, qui est quelque chose de très important, justement. Quand on voit ça, le contre-jour qui fait qu'on oublie qu'il s'agit de pierre et de masse, mais qu'effectivement, on ne voit plus que du contre-jour et de la lumière. Hein, donc, quelque part, la dématérialisation, le fait de quitter la Terre pour être emporté... Je vais commencer. C'était bien, là. Oui, mais là, on voit d'ailleurs le principe de la lumière, c'est que toi-même, tu es transformé en vitrail. Tu es élevé. Et vous voyez que jusque le jeu de contre-jour, parce que je vous ai montré que de l'extérieur à l'intérieur, il y avait un rapport très différent. Ah zut, allez, je m'emmène un petit peu les pinceaux là-dedans. Quand on voyait de l'extérieur la rosace, comme par exemple ici, là on a vraiment la sensation de masse, on est sous le soleil, hein, on ne voit pas le contenu des vitrailles, alors que de l'intérieur, tout d'un coup, tchac, la pierre disparaît au bénéfice justement d'une sorte de nervure et de réseau, comme on disait, qui vous relie, hein, de l'infiniment petit à l'infiniment grand qu'est la cathédrale, vraiment un tissage dont vous êtes effectivement presque piégé par une grande toile d'araignée, comme une petite mouche. Voilà ce qu'on est un petit peu dans ce genre de truc. Alors, il y a le dispositif, mais alors après, il y a le contenu aussi des vitraux qui, lui, est vraiment programmatique. Hein, programmatique, et on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, juste une chose, monsieur a dit que les numéros des vitraux, ça c'est l'ensemble des vitraux actuellement dans la cathédrale de Chartres. Alors, il y en a qui sont dans les verrières basses et les verrières hautes. Il y a le transept, le transept ici, les rosaces qui sont donc au bout du transept et sur la façade ouest. Et puis, vous avez effectivement déambulatoire, chœur et ce qu'on appelle les chapelles rayonnantes qui sont justement autour. Hein. Ça, c'est issu, vous savez, le plan aussi des déambulatoires est issu des chapelles où il y avait des reliques, où on permettait aux pèlerins de faire le tour des reliques et de retourner. Hein, c'était vraiment une sorte de procession qui permettait de faire le tour lors des cérémonies. Très souvent, quand même, dans les cathédrales et les églises, tout ce qui est le chœur, le chevet, etc., est réservé aux prêtres, aux moines, et aux, ça dépend de la nature de l'édifice, mais qui sont effectivement enclos, hein, tous les prêtres sont séparés de la population qui, elle, est directement dans la nef, la partie centrale. Alors voilà. Alors les vitraux, il s'agit de faire une véritable leçon, hein, de théologie. Alors on a vu l'importance de l'arbre et de l'arbre de Jessé, qui est donc une origine, puisque c'est la filiation de Jésus par sa mère. Et rappelez-vous aussi l'importance féminine dans les cathédrales, puisque la plupart sont Notre-Dame. Le mythe aussi de la nature et de la naissance est très important, puisque on est dans quelque chose de très ouvert, hein, le thème de l'arbre, le thème du bourgeon qu'on va trouver dans les sculptures presque partout, et le thème de la naissance et de la promesse, puisque c'est quelque chose qui est tourné vers l'avenir. Donc il y a un schéma intellectuel qui est important, qu'on retrouve jusque dans le détail. Et effectivement, dans l'arbre de Jessé, celle qui domine, ça reste Marie, qui ensuite fait... Enfin, après, il y a Jésus, évidemment. Mais, si vous voulez, c'est une importance aussi cruciale. Donc, on l'a au cœur de la rosace, on l'a dans le titre, on a, y compris, dans ce vitrail de l'arbre de Jessé, je reviendrai là-dessus. Et là, on la voit, comme je l'ai dit, trônant, un peu comme les déesses primitives, hein, Isis, etc. Alors, à Chartres, on va retrouver deux vitraux de l'Apocalypse. Et là, c'est intéressant parce que ça nous ramène à ce que je vous avais dit sur l'Apocalypse de Beatus de Liébana, comment est-ce qu'il avait construit autour des commentaires de l'Apocalypse une véritable géopolitique. Hein, ça, c'est très clair. Et là, on retrouve donc ce lien. Hein. Alors, juste par contre, une chose, j'ai un peu la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien, comme disait Jeanne Moreau. J'étais arrivé où exactement la dernière fois? On avait vu ça ou pas?
Non,
d'accord. Parce que je vous explique parce que je fais.
On était arrivé à Chartres.
Au Kremlin-Bicêtre. Et au Kremlin-Bicêtre, comme j'ai une heure et demie, je vais un peu plus loin. Et après, je ne sais plus ce que j'ai raconté.
D'ailleurs, vous marchez plus.
Quoi. Voilà, je. Voilà. Alors, l'Apocalypse, rappelez-vous que le moine Beatus de Liébana, qui est peut-être celui qui a inventé toute l'iconographie chrétienne au 9e siècle, c'est un moine donc de Cantabrie, à la limite des Asturies et de la Cantabrie, donc cette chaîne de montagnes de la péninsule ibérique, qui faisait barrière avec le monde musulman et wisigoth, et ce qui était resté chrétien, toute la bande du nord de l'Espagne. Et le moine Beatus de Liébana invente un petit peu une actualisation de l'Apocalypse de Jean. Il l'actualise, il fait en sorte que le roi et la reine d'Asturie soit lié quelque part et soit introduit dans ce programme théologique. Et ce moine Béatus, c'est lui quasiment qui invente aussi l'histoire de Saint-Jacques à Compostelle, au bout du bout du bout de l'Espagne du Nord, de façon à quelque part sanctuariser tous les pèlerinages, tous les pèlerins qui vont être dans un goulot, qui vont passer par le nord de l'Espagne, et blinder, si vous voulez, cette zone qui restera donc chrétienne, avec les menaces et les tensions qu'il y a avec les Visigoths, qui étaient des, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais des hérétiques chrétiens, et les musulmans, qui venaient d'arriver aussi dans l'Espagne du Sud. Et donc l'Espagne du Sud était musulmane. Donc la barrière physique des montagnes, des pics d'Europe, permet effectivement cette sanctuarisation chrétienne de l'Espagne du Nord. Toujours est-il que cet apocalypse, c'est quelque chose de très important, parce que d'abord, il y a le côté un peu terrible, il y a l'idée du jugement dernier qu'on va retrouver dans l'apocalypse, il y a cette idée aussi de sauveur, hein, d'un Christ sauveur qui apparaît cette fois-ci. Et puis, ce qui était aussi intéressant dans l'apocalypse, c'est que... Il y a le cheval blanc, le cavalier blanc de l'Apocalypse, qui arrive justement pour les temps nouveaux. Et le moine Beatus de Liébana réussit à inventer l'histoire de Saint-Jacques Matamores, Saint-Jacques de Compostelle, qui est le petit frère de Jean, qui a écrit l'Apocalypse. Saint-Jacques de Compostelle arrive, Saint-Jacques arrive en Espagne, on dit qu'il serait arrivé et qu'il serait apparu dans les batailles contre les musulmans, au milieu des montagnes d'Asturie, sur un cheval blanc. D'où le truc de Santiago Matamores, donc qui tue les Maures. Et ce Saint-Jacques en plus, donc il serait apparu dans les montagnes au 8e siècle, mais en fait, il serait vraiment venu en l'an 30, 40 ou 50, et on aurait retrouvé ses restes. Donc, le moine Béatus et les Asturiens et les Galiciens font la basilique de Saint-Jacques de Compostelle, qui leur permet d'avoir un sanctuaire au bout de l'Europe du Sud. Et effectivement, vous avez donc cette espèce de chemin, l'intérêt de marquer le territoire. Le marquage du territoire, il est aussi géographique, politique, puisque ça va être lié au roi et reine d'Asturie. Et Chartres, on verra que c'est aussi, toutes les cathédrales, je vous ai dit, c'est une manière de marquer aussi le tissu urbain qui commence à renaître, hein, de l'espèce de la chute de l'Empire romain, puis de Moyen-Âge un petit peu chaotique. Eh bien, le tissu urbain aussi se double avec le tissu, on va dire, religieux, institutionnel. Alors, c'est pas un hasard si l'on trouve donc deux vitraux de l'Apocalypse, avec l'iconographie qui est liée à l'Apocalypse, qui se termine avec aussi une des images qui ensuite est connue, c'est par exemple l'agneau, hein, l'agneau sauveur, ici la reine mère, etc. Et puis, toutes les scènes qui sont décrites par Jean dans l'Apocalypse, le fils de l'homme avec les épées dans la bouche, les choses qu'on a vues l'année dernière, etc. Alors donc, ça c'est un des programmes. Chose d'ailleurs assez drôle, c'est que justement, on trouve un vitrail sur le chemin de Saint-Jacques. En hommage au chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout un hasard si on trouve l'Apocalypse 1, 2, le chemin de Saint-Jacques. On voit bien qu'il y a, au niveau du programme, une grande cohérence, puisque, et qui continue l'œuvre de constitution d'une iconographie et d'une sorte de légende catholique qui se construit au fur et à mesure des siècles. Ça n'a rien à voir avec les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, ils ont 3-4 phrases dites par un prophète barbu un peu space, et puis des gens inspirés. Et donc c'est construit au fur et à mesure, c'est structuré, c'est organisé, c'est inscrit dans le territoire physique et géopolitique de façon très très claire. Et rappelez-vous, Saint-Jacques étant le petit frère de Jean, ils sont aussi liés. Et Saint-Jacques sur son cheval blanc, comme l'avait décrit Jean dans l'Apocalypse. C'est une construction. Une supercherie, alors voilà. Alors, ce que l'on voit aussi, alors je vous l'avais dit, quand on approche d'un vitrail, de loin, comme ça, quand on rentre, on voit avant de voir les images, on voit les structures géométriques aussi. Ça, c'est très très clair. Et ce qui est très intéressant, c'est l'infinie variété des structures géométriques, cercles, triangles, carrés, qui sont effectivement ordonnées avec une science et un jeu purement mathématique très intéressant. Je passerai tout à l'heure sur les couleurs. Alors le chemin de Saint-Jacques, la légende de Saint-Jacques, etc., c'est important, hein, rappelez-vous qu'on va toujours du bas vers le haut. Celui-ci, je ne sais pas s'il a été restauré ou pas, alors attendez, je zoome, parce que vous avez vu la qualité des documents, c'est que si je zoome, on ne voit toujours pas de pixels. C'est des images qui elles-mêmes font plusieurs mégas, donc c'est vraiment très intéressant. Alors, Les couleurs sont les couleurs primaires plus le vert. Hein. Donc ça, je pense que c'est une question de pigment. Le bleu, théoriquement, est plus rare, mais on voit beaucoup. Alors juste une chose, j'ai la chance d'être myope. Et j'ai une expérience, pas mystique, parce que c'est pas mon truc, mais j'étais à la Sainte-Chapelle, voilà, 2-3 ans, un matin, et puis je regardais les vitraux, qui sont, j'en parlerai tout à l'heure, sublimes, etc. Mais avec, quand on voit bien, on dissocie bien le bleu, le vert, le rouge, etc. Puis je sais pas quoi, j'enlève mes lunettes, waouh, et tout d'un coup, j'ai vraiment une révélation, comme Claudel derrière son pilier, c'est que tout d'un coup, j'ai vu plein de couleurs. J'ai vu des violets, des oranges, des roses, des verts, etc. Parce qu'en fait, il y avait un mélange optique qui se faisait, si je ne voyais pas précisément, les couleurs se mêlaient. Et donc, ça faisait effectivement une gamme beaucoup plus variée de couleurs. Alors, est-ce qu'ils étaient tous myopes, ou est-ce qu'ils avaient imaginé que, quelque part, les myopes pouvaient voir au-delà? Parce que c'est un délire de ma part, mais il y a quand même cette idée que ce mélange optique des couleurs permet de voir autre chose que ce qu'il y a. C'est-à-dire que les couleurs, elles sont locales, et tout d'un coup, le mélange optique avec le recul fait qu'elles se mêlent aussi, et tout d'un coup, on est dans des couleurs immatérielles, puisqu'elles ne sont plus localisées, et elles se font dans la lumière. Le fait de... Est-ce que c'était prévu ou pas? Si vous avez la chance d'être myope, essayez, vous allez voir. Sinon, bah écoutez, mettez un truc devant vous, ou faites de la buée. Mais voilà. Donc, par contre, effectivement...
Oui. Les couleurs, elles sont chacune dans un petit élément de vert,
oui,
entouré de plomb, parce qu'il y a des trucs qui sont peints en plus.
Alors voilà, c'est ce qu'on appelle les grisailles, c'est que les grisailles. Alors, c'est là ce que je disais qui est intéressant, c'est que le réseau graphique, au sens strict, il va depuis le dessin, au sens strict, dessin peint, la grisaille qui est peinte sur, même parfois sur du blanc, sur du vert, sur du bleu, même le diable est ici, il y a une sorte de camailleux, là, bleu, qui sont peints dessus. Alors, je pense que c'est à sec, hein, parce qu'on ne peut pas peindre quand c'est chaud, mais donc c'est à secco, comme on dit. Mmh. Ensuite, vous avez le réseau de plomb qui, soit est narratif, c'est-à-dire qui fait vraiment la silhouette, soit il est technique, soit il est les deux, parce que là, par exemple, il fait la silhouette, le bord de la tunique verte et de la tunique rouge, mais ici, vous avez la tunique verte est brisée parce qu'elle est reliée par un petit morceau de plomb. Donc, le réseau, il est tantôt figuratif. Alors, très figuratif quand il est peint, figuratif quand il fait le contour des silhouettes ou des éléments essentiels, et en même temps, il devient presque abstrait et hasardeux quand il est lié à une brisure. Alors, les brisures, elles sont parfois volontaires, parce que si c'est des trop gros morceaux, c'est trop fragile. Donc, je vous ai expliqué comment il faisait les vitraux ?
Non.
Je sais plus. Alors, la vitre, en fait, c'est des souffleurs, hein, de verre, donc il y a des pattes de verre constituées. Alors, il y a deux techniques. Il y en a une qui est de force centrifuge. Ils ont leur boule de pâte de verre et ils tournent très très vite. Elle est accrochée à une sorte de tube, de tuyau. Ils le tournent très très vite de façon qu'avec la force centrifuge, ça devient une galette. Ça devient une galette progressive et en s'agrandissant, elle se refroidit et elle sèche effectivement. Donc, elle durcit. Là, on coupe le bout et on a une sorte de disque de verre de couleur. Et ensuite, on va le casser en morceaux pour avoir des morceaux de couleur. Donc ça, c'est une technique qui fait qu'on la voit dans certains vitraux quand on voit encore des sortes de stries concentriques, des restes de stries concentriques. Et l'autre technique, je crois qu'elle est plus répandue, faut du bon souffle, vous avez donc votre boule de verre colorée, un tuyau, on souffle, on fait une grosse bouteille, et en même temps, on tourne tout en soufflant. Donc ça s'allonge, et même, je crois qu'il la frotte sur les, pour qu'elle s'allonge régulièrement, pour faire une grande bouteille, tout en soufflant, pour pas que ce soit une boule, il faut que ce soit un cylindre. Quand le cylindre est encore chaud, on coupe le goulot, on coupe le cul de bouteille, et donc ça fait un cylindre pur de verre, il est fendu, et encore chaud, il est aplati. Ce qui permet de faire une feuille. Donc c'est une technique très élaborée, il faut être champion, enfin, c'est incroyable. Et après, comme c'est fragile, parfois il casse exprès, je crois, les morceaux pour pouvoir les insérer, parce que des plaques trop grandes de verre seraient trop fragiles, et ensuite ne peuvent pas s'inscrire dans le réseau narratif, etc. Donc, les techniques sont très élaborées. Et ensuite, le plomb, ils sont posés sur des petits fils de plomb qui sont encore mous, de façon à pouvoir, en gros, on appuie dessus, donc le plomb déborde. Et après, la partie qui déborde, on la réécrase, de façon à ce qu'elle puisse sertir le plomb, le verre des deux côtés.
C'est pas soudé?
Non, c'est serti. Parce que le verre, non, il n'est pas soudé, il est serti par du plomb chaud. Donc, c'est... Il faut une maîtrise incroyable. Alors tout ça, c'est fait à plat, et c'est pour ça qu'aussi c'est monté morceau par morceau, comme on le disait.
S'il vous plaît. Oui. Les visages blancs et colorés, ça distingue deux catégories, les méchants. Les...
Ah ben là, oui, très clairement. Là, il y a les traits méchants, hein, ça, on viendra sur la figuration du diable. Donc ça, c'est... Alors Saint-Jacques, je ne sais plus exactement, donc il y a le martyr de Saint-Jacques, il doit être décapité quelque part, il doit chasser les idoles, etc. Donc vous avez toutes les histoires alors, reconnaissables, hein, effectivement, la décapité, etc. Et quand même toujours la bénédiction du Dieu chrétien, etc. Alors ici, et c'est là où, à côté du vitrail de Saint-Jacques, mais si vous vous souvenez bien du cours de l'année dernière, ce qui était, chose assez marrante, vous avez un vitrail à Charlemagne. Un vitrail à Charlemagne, mais c'est logique, puisqu'effectivement Charlemagne est contemporain du moine Béatus de Liébana. Charlemagne, c'est également un empereur qui va devenir chrétien, comme le roi et la reine d'Asturie vont être quelque part soudés et liés au christianisme un petit peu primitif ou renaissant des Asturies. Et Charlemagne, c'est le modèle, en fait, pour presque tous les dirigeants, qu'ils soient religieux ou séculiers, c'est qu'effectivement, c'est d'associer la religion à un pouvoir temporel. Donc Charlemagne reste effectivement un personnage essentiel dans l'iconographie chrétienne des débuts, puisque, et c'est normal qu'on le retrouve ici à côté du vitrail de Saint-Jacques, effectivement. En plus, la tradition veut que Charlemagne soit allé lui aussi à Roncevaux et donc dans l'Espagne du Nord. Puisque, effectivement, avec Roland, etc., on est dans cette idée de reconquête de territoire et de rechristianisation de toute l'Europe. Donc, si vous voulez, Charlemagne fait le lien entre l'Europe du Nord. On a vu que même Aix-la-Chapelle, etc., avait un lien avec la tradition byzantine, quand on a vu Galla Placidia, et là, on le retrouve ici jusqu'à Chartres. Donc, si vous voulez, vous avez vraiment une géopolitique chrétienne et qu'on le retrouve dans le programme de Chartres. Alors, ici, l'arbre de Jessé. Alors, l'arbre, je vous en ai parlé comme mythologie, mais mythologie biblique, hein, la généalogie de Jésus. Comme disait, je crois que c'est Pierre Desproges qui disait que Jésus était de bonne famille, était issu d'une bonne famille, puisque sa mère était de très bonne descendance, etc. Donc, et je ne sais plus exactement sa phrase. Mais, alors, la généalogie, c'est bon pour la religion, mais c'est aussi une généalogie qui sera un double des généalogies royales, puisque rappelez-vous qu'un des objectifs même de Suger à Saint-Denis, c'est d'établir une généalogie royale. Alors, je ne sais plus très bien, je ne suis pas Stéphane Bern, mais entre les Plantagenets ou les Capétiens, c'est un peu difficile, puisque ça se bagarre, mais l'idée, ça serait de trouver une bonne généalogie royale qui puisse être constituée. Alors, il y aura les Plantagenets et puis il y aura les Capétiens, mais si vous voulez, il y a cette idée d'une continuité légitime aussi du pouvoir royal. Alors Charlemagne avait essayé, mais ses fils se sont disputés, etc. Mais si vous voulez, là, il y a un enjeu. Donc l'arbre de Jessé a une vocation, évidemment, chrétienne, mais aussi une vocation, à dire, politique, etc. Alors juste une chose, quand on le voit en grand, enfin, j'arrête pas de dire juste une chose, puis je ne vais pas avoir le détail, il y a quelque chose qui est très beau au niveau quand même du rapport entre la figure de l'arbre, ce que vous en avez déjà parlé, et les piliers des cathédrales. Les piliers des cathédrales et les principes de voûte en ogive et en croisée et des voûtes les voûtes d'arête et les voûtes d'ogive sont effectivement partent souvent de milieux, et puis c'est cette idée, quelque chose d'un épanouissement du type des nervures d'un arbre, etc. Donc l'arbre, c'est quelque chose aussi qui, les pieds sur terre et la tête dans les nuages, les ramifications, la diversification, y compris plus on s'écarte du tronc, et cette idée de partir du sol vers le ciel. Donc l'arbre, comme métaphore que l'on retrouve et qui se prête parfaitement au thème du vitrail, à sa verticalité, à ses rinceaux, à ses réseaux, et puis aussi qui fait le lien, le thème de l'arbre, c'est pour ça que c'est peut-être un des vitraux les plus réussis, avec les motifs végétaux qui étaient décoratifs ici, et les entrelacs, puisque tout d'un coup on a aussi ce réseau de nervures, une figure nervurée qui se prête parfaitement à la dimension végétale. Et puis, par contre là encore, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais bon tant pis, je revois, attendez, quand on voit un détail, alors c'est surtout valable dans Notre-Dame. Alors, on va voir Notre-Dame, enfin Notre-Dame entre autres. Alors, où est-ce qu'elle est ? Je l'ai perdue. Bon, je prends. Ben voilà, un nom, ici. Alors, quand on a Notre-Dame de Paris, j'ai Notre-Dame de Paris. Là, je zoome encore, j'ai des documents qui sont comme. Vous voyez ces petits grains, ces petites boules-là. Et bien, effectivement, et qu'on en voit ici. Bon, ça, c'est la flèche de Viollet-le-Duc, enfin, il a repris les motifs décoratifs qui sont ici, le thème de l'arbre et du bourgeon, on le retrouve dans les chapiteaux. Et ça, en fait, les petites boules, là, c'est un motif iconographique du bourgeon, y compris les palmes, etc. C'est-à-dire que cette idée d'une naissance, d'une promesse, etc., l'arborescence, et cette idée d'une végétation pleine de promesses, pleine de fruits, on va retrouver dans l'expression chrétienne, le fruit de vos entrailles, elle ne sera pas toujours heureuse, mais toujours est-il que on va le retrouver jusque dans le détail. Donc, de l'intérieur à l'extérieur, le modèle, le schéma de l'arbre, il est récurrent. Et il fait du sens. Voilà. Alors, je reviens au programme des vitraux. On était arrivé à Charlemagne. Alors, l'arbre, alors évidemment, ensuite, ben, vous avez un peu les grands classiques, parce qu'il faut quand même que les gens connaissent leur base. Hein, Adam et Ève, alors là aussi c'est quand même essentiel, donc on va dire la Bible, ce qu'on appelle la Bible comparée souvent, hein. Donc vous avez ici la représentation classique, Adam et Ève, la pomme, la création d'Adam, toutes ces choses diverses et variées, la punition, le travail, alors ça j'y reviendrai, mais Adam à la bêche et Ève à filer, ah non, ça c'est Caïn et Abel. Adam est en train de bêcher et Ève est en train de filer. Là aussi, j'en reparlerai parce qu'il y a un enjeu, on avait vu l'année dernière, la séparation genrée du travail. Ça, c'est quelque chose qui a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, mais sur lequel on insiste lourdement. Alors j'insiste parce qu'en fait, on verra dans le Taquinum qu'il y a autre chose. Il y a vraiment une sorte d'idéologie ici religieuse de séparation des sexes, séparation des genres, hein, très clair, avec la femme au filet ou la femme mère, mari, etc. Mais on la cantonne de plus en plus à des rôles très genrés et limités. Presque toutes les autres activités sont vues comme masculines, ce qui n'était pas le cas dans les millénaires précédents, et ce qui résiste, on verra que ça résiste aussi dans certains domaines. Caïn et Abel, alors la plupart du temps, presque tout le monde, et puis vous imaginez bien que ces images font écho et elles sont codifiées, parce qu'on les retrouve partout. On les retrouve dans les sculptures, on les retrouve dans les vitraux, vous changez d'église, vous retrouvez les mêmes scènes, donc c'est vraiment aussi des icônes, on pourrait dire des images presque sacrées qui sont répétées à l'envi et qui sont donc identifiables très facilement dans ces cas-là. Et bon, alors toujours cette lecture-là. Et en bas, toujours ce que je vous avais dit, les corporations. Ça aussi, c'est intéressant, puisque vous avez... ça, c'est le cuir, je crois. Chaque corporation paye un vitrail, hein, et se trouve donc inclus dans la cathédrale, et se fait représenter à la base. Et on reviendra un petit peu sur l'importance des corporations dans Chartres. Alors, deuxième, alors la passion et la résurrection. Celui-ci est très intéressant, parce que justement... au niveau de sa structure. Là, vous avez vraiment une histoire en deux temps. La passion, la résurrection et la crucifixion en petit au milieu. Et donc, on voit bien là aussi une structure narrative. Ce n'est pas juste un hasard, les grands cercles, les petits cercles. Puisque vous avez toute la partie, on va dire, humaine de Jésus. Quand il arrive, il naît, il a cette histoire, il est moqué, il est trahi, il porte sa croix, il est fouetté, etc. Donc, la passion. Et en bas, dans le domaine du bas, et au milieu du vitrail, vous avez le moment de passage crucial, il meurt et il ressuscite, et au-dessus, vous avez toute la zone de résurrection, etc., avec, moi, je pense qu'il y aura Nolim et Tangere, la résurrection du tombeau, peut-être Saint Thomas, enfin, si je zoomais, on verrait peut-être un peu mieux, on repérerait un peu mieux tout ce qui se passe, ça serait, je ne sais pas ce que c'est, oui, c'est une Bible comparée, sans doute. Ouais, là c'est une Bible comparée, puisque vous avez ici la résurrection, on va dire, de Jésus et les résurrections, Daniel dans la fosse au lion et Jonas et la baleine. Ça aussi, ça c'est classique, c'est qu'il s'agit aussi de faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça s'appelle des Bibles comparées, qu'on trouve très souvent dans les manuscrits. C'est trouver des mythes de résurrection dans la Bible. Alors, ça peut être Joseph qui sort de son puits, qui reste 3 jours dans le puits. Ça peut être Jonas qui reste aussi 3 jours, je crois, dans le ventre de la baleine. C'est Daniel dans la fosse au lion qui est dévoré et puis qui les fait fuir, etc. Donc beaucoup de mythes de résurrection pour montrer que Jésus est bien dans la tradition biblique, mais il la rénove, etc. Ça, c'est classique, etc. Mais la structure du vitrail, ici aussi, hein, avec ici la petite partie donnée à la crucifixion. Alors ça aussi, c'est quand même assez révélateur, si vous voulez, de l'état d'esprit gothique. Maintenant, les gothiques, c'est au contraire tête de mort partout, alors que la vraie tradition gothique, c'est pas ça du tout. Parce que le moment de mort est montré vraiment comme un petit passage tout petit, même en termes de surface. Rappelez-vous que dans les églises, les cathédrales gothiques, le plan de croix est réduit, le thème du crucifix, même d'un point de vue iconographique, est très réduit, et on est beaucoup moins dans la martyriologie, la mort, etc., qu'au contraire dans les principes de passage positif, de lumière, etc. Donc c'est une vision théologique bien particulière qui ne sera pas du tout la même dans d'autres siècles suivants. Donc la passion, alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal aussi, c'est bon, l'histoire de Jésus, tout simplement. Alors attendez. Parce que, en détail, vous aviez le grand vitrail, la passion-résurrection, puis ensuite la passion elle-même avec toutes ses vignettes, toutes ses, c'est vraiment la, c'est le thriller total. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une seule histoire à cette époque-là dans nos contrées, et c'est celle-ci quasiment. Après, il peut y avoir des légendes, des contes, etc. Mais une histoire commune partagée par tous, c'est l'histoire de Jésus qui est un surdoué, qui est obligé de fuir les massacres avec sa famille, puis qui est dans une crèche. Vous connaissez l'histoire, mais c'est une histoire extraordinaire qui est trahi, lui arrive des trucs d'enfer, il ressuscite. Et donc, vous avez cette histoire-là. Alors là, c'est très populaire. Là, on peut dire. Et là, on retrouve un vitrail avec une narration beaucoup plus simplifiée, hein, avec effectivement des scènes, lavement des pieds, la scène. Alors là, je ne sais plus, crucifixion, toutes ces scènes-là, Nolim étant guéri, la résurrection. Ici, donc, une autre version, on va dire moins conceptuelle et plus narrative, et qui effectivement va de vignette en vignette, quasiment, de façon très claire. Alors, je crois qu'il y a deux vitraux sur l'histoire, qui va reprendre à peu près la même scène, avec, parce que c'est une histoire assez riche, hein, la multiplication, je pense, n'est pas ici, ça c'est l'entrée à Jérusalem et les rameaux, ça c'est la scène, ça c'est le lavement des pieds, ça c'est, vous avez donc le baiser de Judas, hein, on trouve ici des scènes intéressantes, donc, le baiser de Judas, de façon très claire, ici.
Hein. Et comment on lit
alors là, en général, normalement, c'est, puisqu'il y a la scène ici, lavement des pieds, baiser de Judas, crucifixion, oui. Hein, arrive à Jérusalem, là ici, il est fouetté. Il est arrêté fouetté, donc on lit de bas en haut, comme je vous disais. Hein. L'idée, c'est de monter, pour aller à chaque fois, on part de quelque chose de bien réel.
De gauche à droite.
Voilà, on part de l'anecdote pour aller vers l'essentiel. Et de toute façon, c'est compliqué parce que c'est des va-et-vient intéressants. On rentre, on voit surtout des lumières et des formes géométriques, on s'approche, on rentre un peu dans l'histoire, et quand on rentre dans l'histoire, elle vous amène encore en haut. C'est-à-dire que chaque fois, il y a quand même, on n'est jamais dans un rapport simple. On est toujours dans un rapport dynamique, de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur du bas vers le haut, etc. Donc là encore, c'est des vrais mécanismes, des dispositifs très savants. Et puis on peut aussi se contenter, hein, là c'est du Piet Mondrian, des formes géométriques, du rouge, du noir, du blanc, et des formes géométriques. Hein, on est dans les éléments purs. Hein. Alors ils ne connaissent pas encore le principe des couleurs primaires au niveau optique, mais quand même, on a bleu, jaune, rouge, noir, blanc, etc. Donc on a vraiment des éléments essentiels. Aussi, on s'écarte de l'anecdote et du naturalisme, pour dire ce que disait Abdelatif tout à l'heure. Hein, on est vraiment là-dessus. Alors, là encore, hein, c'est vraiment des vitraux de narration. Hein, l'enfance de Jésus. Alors là, on est dans les évangiles apocryphes. Et à partir du moment où on a installé ces histoires-là, l'essentiel, la place, hein, c'est ouvert pour raconter l'histoire à partir de n'importe quoi. Vous savez qu'il y a à peu près 150 évangiles. Il n'y en a que 4, ça a été un travail énorme de toutes les autorités religieuses au cours des siècles pour n'en retenir que 4, parce qu'ils étaient, et 4 avec des contradictions, mais les autres, etc. Plus, vous avez aussi la légende dorée de Jacques de Voragine qui va inventer des histoires des saints, des martyrs, etc. Plus l'histoire de l'enfance de Marie, l'enfance de Jésus, et on brode, puisqu'il y a une demande, et ça rend les choses populaires. Et puis, ce sont toujours aussi, pour les théoriciens, c'est logique, puisqu'il faut mettre des intermédiaires, hein, entre le public populaire et puis la religion. Donc, finalement, les histoires, eh bien, sont des métaphores, alors c'est plus ou moins inventé, mais ça permet de faire le lien. Si on parle de la petite histoire pour aller vers la grande, comme on parle de la petite image pour aller vers les formes géométriques, on parle des lumières colorées pour aller vers la lumière unique, etc. Alors on voit en général ce qui est autour des histoires, des belles histoires, dans les vitraux, souvent un schéma effectivement narratif fragmenté, clac, 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 comme ça, vraiment comme une petite bande dessinée. Alors là, c'est pareil, on pourrait s'attarder, hein, alors tous les documents que j'ai trouvés sont de très bonne qualité. Alors là, le petit Jésus, l'enfance de Jésus, les rois mages, alors ça on les connaît toutes, ça c'est le massacre des innocents, il y a toutes ces histoires-là, Hérode qui commet le massacre des innocents, le voyant le massacre des innocents, évidemment, hein. Donc des grands classiques, et là encore une très belle alternance de cercles et de carrés, de couleurs, mais très vives, les rois mages, alors toutes ces scènes qui sont, voilà, qui sont un peu merveilleuses, mais là racontées en détail, hein. Les rois mages on les voit 3-4 fois. Donc, la rencontre, l'annonciation, la naissance, etc., etc. Alors, des vignettes. Alors, ici, je continue. Alors, les apôtres, évidemment, parce que là aussi, on est dans la diversité. Alors, vous voyez que ce qui est intéressant aussi, et qui est très clair, c'est qu'autant la cathédrale est aussi un ensemble de parties qui constituent un tout au terme architectural, que le vitrail lui-même est un ensemble de petites parties qui constituent un tout, eh bien, en fait, toutes ces histoires-là constituent un tout. C'est-à-dire qu'il y a la Bible, il y a les évangiles, il y a tous ces trucs, et ça finit par constituer aussi une multitude de fragments, mais qui sont ordonnés, structurés, pour faire une véritable légende, une totalité, jusque, effectivement, là. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, on peut, comme dans les séries américaines, etc., ou anglaises, on peut diversifier, on a un héros, on va raconter son histoire. On a une autre héroïne, on va raconter son histoire. C'est que vous avez... Là encore, une arborescence, et ça fonctionne aussi. Parce que vous avez les histoires des apôtres, alors ils sont 12, ça tombe bien, c'est super, au niveau des chiffres, des nombres, et tout d'un coup, ça permet aussi de narrer de façon structurée toutes ces histoires. Et l'alternance infinie de cercles, de carrés, de triangles, de demi-cercles, de rectangles, de croisements, de rotations, etc. Alors voilà quelques détails, justement. Alors ici, vous avez alors, une des scènes qui est très intéressante, et aussi emblématique du christianisme, c'est l'Assomption, puisque justement, et alors là c'est très malin, puisque l'Ascension, quand Jésus monte au ciel, et puis on lui dit, les anges disent, bah, pourquoi regarder le ciel, il n'est plus là, donc tout d'un coup, bah, ils sont perdus, et là dans le vitrail, on voit qu'il y a déjà des solutions, des dispositifs de mise en scène, de composition, qui sont très intéressants, puisque là, il y a une partie des pieds qui sont parmi les humains, et la tête, effectivement, elle rentre dans le sommet. Alors ça, on voit ça déjà dans les tympans romans, etc. Ce sont des solutions qui sont déjà trouvées depuis longtemps, mais qu'on retrouve encore ici. Et donc, ce qui culmine de l'histoire des apôtres, ben, c'est qu'au bout du compte, ils arrivent là, et dans tout le petit coin du vitrail, là, tout au bout, ben, il y a l'essentiel vers lequel on est guidé en suivant ben, cette histoire. Et donc, voilà les détails. Et quand je vous parle de partie et de tout, ça, c'est quelque chose aussi qui est très conceptuellement important, qui vont reprendre d'ailleurs chez les Grecs, puisqu'on trouve ça chez Platon, on trouve ça, c'est que la partie constitue le tout, et un tout est constitué de parties qui elles-mêmes sont harmonieuses. Pour qu'il y ait une harmonie, il faut que toutes les parties qui constituent le tout obéissent à peu près au même principe. Alors, ça peut être dans l'arborescence, puisqu'à la limite, ou les fractales maintenant, hein, puisque vous prenez un bout de brocoli, c'est comme tout le brocoli entier. Eh bien, si vous voulez, vous avez un peu cette idée-là dans le vitrail, c'est que le vitrail, ça c'est un morceau du vitrail, hein, du grand vitrail des apôtres, c'est à peu près un tiers, mais si je le prends, il fait déjà une totalité, 9, 9, 9, avec etc., toute une beauté des chiffres, etc. Mais si on ne prend aussi qu'un seul des éléments, il est lui-même composé, ordonné, et on a à chaque fois une sorte de leçon. C'est-à-dire que c'est pas comme une bande dessinée où ce sont des séquences, chaque partie ici est un tout. Chaque partie est un tout, au moins tant qu'elle est structurée géométriquement. Si ensuite on zoome complètement, là, on atteint le noyau dur de la matière, comme des atomes, on ne peut pas aller au-delà. La géométrie reste quand même ce qui permet d'ordonner les parties. Vous avez vu dans cette géométrie-là, on va retrouver encore un cadre, et dans ce cadre-là, il y aura des parties, mais voilà, on n'ira pas plus loin. Il y avait déjà des notions atomistes, hein, depuis les anciens, même les Grecs. Hein. Donc cette idée d'éléments durs de matière, on le trouve presque dans l'image ici. Donc, réduire, jusqu'à quel point on peut réduire, justement, l'œuvre. Alors voilà encore les scènes classiques, la pêche miraculeuse, etc., etc. Donc ça, on pourrait les regarder en détail. Alors la vie de Marie, bien entendu, il y a la vie des apôtres, la vie de Marie. Alors Marie, évidemment, elle a son histoire, petite fille, c'est très intéressant. Elle est, elle aussi, de bonne famille, parce qu'elle est descendante quand même de David, etc. Donc, on va voir. Alors là, par contre, mon document est en bonne qualité, encore que non, ça va. Donc cette idée du double, mais l'importance donnée à Marie, hein, c'est quand même crucial, du point de vue de l'équilibre du masculin et du féminin dans la religion chrétienne. Alors, j'avance un peu. Alors, évidemment, il y a Marie et il y a Marie-Madeleine, là aussi. Ça aussi, très important, c'est que il est quasiment impossible d'évacuer la moitié de l'humanité, même dans une religion machiste, patriarcale, et dont le dieu est un homme barbu, pas content, furieux, caricature de patriarche, et dont l'image sur Terre est là encore un homme, un masculin. La figure de Marie-Madeleine est irréductible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Non seulement on ne peut pas s'en débarrasser, mais ça permet, y compris, de rappeler le rapport à l'humanité du dieu des chrétiens. Et donc, les vitraux de Marie-Madeleine et l'importance de Marie-Madeleine, notamment en France, est très importante, puisqu'on dit qu'elle serait arrivée en France, au sein de Marie de la Mer, et qu'ensuite elle aurait émigré dans sa grotte en pleine méditation, et qu'on aurait même réussi à retrouver une de ses côtelettes, ses côtes, pour servir de relique à la basilique de Vézelay. Donc Vézelay est construite sur une relique, c'est... Je crois que je l'ai vue, la côtelette de Marie-Madeleine. Donc la pauvre, elle est... Et toujours est-il qu'on est aussi dans les chemins, on est dans le balisage, on est dans l'inscription du territoire, y compris le lien charnel, qui est important, c'est que vous avez beau avoir une religion qui vole vers les hauteurs, à chaque fois on se raccroche aussi quand même à des éléments très très terrestres, même corporels, charnels, physiques, du territoire ou du corps, ou même des sentiments ou de l'amour. Parce que selon les versions, on verra, Marie-Madeleine a une importance variable, mais effectivement, moi je connais plus, j'ai un peu oublié toute l'histoire de Marie-Madeleine, en tout cas c'est un vitrail dédié à Marie-Madeleine, et donc je crois que c'est la sœur de Lazare qui est ressuscitée, donc Lazare. Alors, il y a plein de théories sur Marie-Madeleine, qu'il y aurait plusieurs maris, de Madeleine de Magdala, de je sais pas quoi, enfin il y a plusieurs Madeleine de je sais plus où, bref. Toujours est-il qu'au fur et à mesure, elle va être synthétisée dans une seule figure, qui soit à la fois la Marie de Marthe et Marie, la sœur de Lazare, et l'amoureuse ou la femme de Jésus, celle à qui il apparaît en premier, parce que ça aussi c'est quand même important, on le verra plus tard. La tradition chrétienne, par contre là on voit... Ah bah si, voilà, c'est ici. Cette scène sur laquelle je reviendrai, qui est très importante, c'est justement cette résurrection où Jésus, mort, ressuscite, donc il est passé, rappelez-vous, du côté humain au côté divin, et la première personne à qui il apparaît, c'est son amoureuse, Marie-Madeleine, qui se précipite vers lui, ah, t'es ressuscité, et pouf, hop, il lui dit, t'approches pas de moi, je suis plus ton mec, je suis plus ton gars, non lui m'étant guéré, ne me touche pas, voilà, donc maintenant je suis divin, donc c'est fini, là, désolé, voilà. Et donc, et vous voyez le geste, mais même dans le vitrail tout en haut, on voit une grande humanité, même dans le sentiment, il y a une espèce de...
Elle avait un comportement pas convenable, Marie-Madeleine.
Alors, c'est... Parfois, il y a des confusions, justement, avec soit la femme... C'est pas la femme adultère, soit la... etc. La pécheresse, etc. Donc, vous avez plusieurs figures. Parfois, elles se mêlent. Mais la vraie tradition, c'est que la Marie-Madeleine qui l'aurait plus ou moins convertie serait quand même devenue celle qui est toujours... Et au niveau... Maintenant, après presque tous les historiens s'accordent pour dire que vraisemblablement, c'était sa femme... Il n'y a pas du tout, je veux dire, c'est un truc tout bête, les rabbins, les imams, les pasteurs, les popes sont mariés, la tradition Jésus était juif, on ne voit pas pourquoi un charpentier de 30 ans ne serait pas marié, même religieux, donc même rabbin, même tout ce qu'on veut. Donc le célibat même des prêtres, c'est une chose assez récente, c'est imposé ces 13-14e siècle, et encore, j'ai vu les Borgia... les papes...
Pour des raisons financières.
Financières, et puis sans doute...
Le patrimoine...
Oui, il y a aussi l'histoire du patrimoine, c'est juste. Donc, si vous voulez, l'idée que cette Marie-Madeleine eût été réellement sa compagne, c'est pas du tout absurde, c'est même... Et en tout cas, en fait, quand on regarde la plupart des peintures autour de Marie-Madeleine, c'est en fait ça qui est exprimé, très clairement. Elle se précipite vers lui, elle lui embrasse les pieds, elle caresse avec ses cheveux, donc elle le touche, à chaque fois c'est un rapport très physique. Qui choque beaucoup moins les gens du Moyen-Âge. Il y a une chose qui est toute bête aussi, c'est que quand même, on a une vision du christianisme qui est totalement déformée par les jésuites du XVIIe siècle et la restauration catholique extrêmement conservatrice du XIXe siècle, vue par les Saint-Sulpiciens et Charles X. Au moment de la restauration du catholicisme dans les écoles chargées de faire l'éducation des enfants, des femmes et des populations qu'on va colonisé, il y a une instrumentalisation du catholicisme qui est bien plus importante, on pourrait dire, au XIXe siècle que dans les siècles précédents, où c'est une culture plus mélangée. Avec certains, et c'est pas un hasard, je fais un petit détail là-dessus, on reviendra, c'est pas un hasard si c'est Ignace de Loyola aussi en Espagne, où c'est un catholicisme revanchard contre l'islam, guerrier, violent, mystique, qui va s'imposer autour des jésuites pendant des siècles, et surtout en Espagne, où c'est un catholicisme de combat. Alors qu'en Italie, en France, bon, il n'y a qu'à lire Rabelais, ou même Marguerite de Navarre, la grande sœur de François Ier, quand elle raconte les histoires, même la sexualité, l'érotisme, etc., sont des choses beaucoup plus partagées, beaucoup moins austères, on va dire, réellement. Même si c'est quand même machiste, sexiste, au sens du dieu masculin, etc. Tu vois-t-il que Marie-Madeleine, elle a le droit à un vitrail entier, hein, de façon très très claire. Alors, miracle de Marie, alors là, bon, après on brode, hein, et ça vous en avez tous, alors ça c'est aussi, c'est la légende dorée, à chaque fois, miracle de Marie, alors je ne vais peut-être pas faire tous les vitraux, ça c'est une sélection, et ça voilà quelques détails, hein, pour qu'on puisse zoomer un peu plus, et à chaque fois, par contre, hein, je vous ai dit, c'est les figures féminines, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit Marie qui a, on n'arrête pas de la voir, dans l'arbre de Jessé, dans la vie de Marie, dans ses miracles, comme mère, comme porteuse, etc. Vous avez à chaque fois cette idée-là, et on la voit toujours trônant avec son fils, et rappelez-vous que c'est quelque chose, hein, qui est très 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 ancien, cette idée d'une femme qui trône et qui domine, et y compris, vous avez aussi quelque chose ici qui est très significatif, le soleil de l'auréole et la lune. Le soleil et la lune qu'on voyait déjà dans Astarté, qu'on voyait déjà dans Inanna, dans Ishtar, dans presque toutes les figures babyloniennes, etc., des figures des femmes toutes puissantes, à la fois reines du jour et de la nuit, qu'on va retrouver aussi dans l'Apocalypse, que la femme qui apparaît dans l'Apocalypse, elle est entourée d'étoiles, mais aussi déesse du soleil et de la lune, du jour et de la nuit, et là, discrètement, on la retrouve. Donc, en fait, c'est bien au-delà de la simple figure de la mère de Jésus, etc. Elle est couronnée aussi, comme l'était, si vous vous souvenez des trucs de l'année dernière, comme l'était Cybèle, la déesse gréco-romaine qui est peut-être le dernier avatar des déesses mères toutes puissantes de la préhistoire, hein, avec une sorte de couronne sur la tête, hein, sur un trône, déesse de la nuit et du jour, du soleil et de la lune, etc. Entourée cette fois-ci, alors là aussi, ça vous semble peut-être tiré par les cheveux, n'empêche que c'est pas de ma faute, mais c'est vrai. Vous avez ce qu'on appelle le tétramorphe, c'est-à-dire les quatre évangélistes. Hein. Alors là, ils sont représentés sous figure d'ange, hein, mais en fait, c'est l'idée des quatre évangélistes. Et les quatre évangélistes, vous avez aussi vous avez l'aigle, d'accord, et l'humain, mais vous avez aussi le taureau et le lion. Et le taureau et le lion, c'est des figures qu'on trouve aussi dans Cybèle et dans Ishtar, Inanna, Astarté, toutes ces figures des primitives, où il y avait effectivement les figures taurines et les bêtes que l'on peut domestiquer, les animaux domestiquables, c'est-à-dire les bovins, et les bêtes fauves qu'on ne peut pas domestiquer, mais qui font aussi partie de la création, qui sont un peu le symbole d'énergie, de puissance et de sauvagerie. Donc, le côté, on va dire, archaïque de la religion chrétienne est assez évident. J'espère que je ne choque personne ici, mais en tout cas, c'est assez clair. Après, on va voir ça. Alors voilà donc des détails. Bon, je ne vais pas vous les montrer tous. Ça, c'est les prophètes. Alors là, les prophètes, c'est le lien avec la Bible et l'Ancien Testament. Saint Jean l'évangéliste, alors lui, il a une place de choix aussi, hein, puisque c'est lui qui a écrit aussi l'Apocalypse. C'est celui qui a connu Jésus, dit-on. Et donc, si vous voulez, et celui aussi qui a un rapport le plus affectueux. Direct, là aussi. Vous avez la figure de Saint Jean comme avec celle de Marie-Madeleine. D'ailleurs, vous les trouvez toujours au pied de la croix. Marie, sa mère, Marie-Madeleine ou Jean. C'est-à-dire que vous avez un rapport ici très humain. Donc, il y a toujours, on va donner. Alors, ça séduit beaucoup le peuple, effectivement, puisque on a une identification à ces sentiments-là. Et on verra comment, dans la peinture, c'est quelque chose qu'on retrouve, l'identification. L'identification par les histoires, par les sentiments, par les émotions, par les aventures, par le suspense, par le destin aussi de quelqu'un, hein, l'idée que tout d'un coup il y a une vie, etc. Et l'idée aussi de se sortir du monde dans lequel on est. Hein, et donc l'histoire de Jean, l'évangéliste, alors là aussi, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Jean l'Évangéliste. Ici, attendez, je ne sais plus lequel c'est celui-là. Saint-Sylvestre, alors là, bon, après on va voir d'autres trucs. Je suis pas, je sais même plus qui c'est Saint-Sylvestre. Donc on va voir d'autres. Alors, c'est important quand même, parce qu'on a vu, on a les fondamentaux. Mais ensuite, ça je vous en ai parlé la dernière fois, il faut justifier les intercesseurs, c'est-à-dire le clergé. Donc Saint-Nicolas, Saint-Sylvestre, Saint-Pierre-Aulien, on verra plus tard ensuite Saint-François, Dominique, etc. Tout cela, il faut en même temps, c'est bien joli d'avoir des dieux, d'avoir etc. Mais ils sont morts, ça fait longtemps. Donc, raviver des figures et réinstaurer avec Saint-Martin, qui sera très populaire, évidemment, Saint-François, des saints qui souhaitent tantôt, alors on verra souvent, soit ce sont des évêques et des personnages, on va dire, théoriciens, soit ce sont des figures populaires, comme par exemple Martin, on verra, François, qui renoncent à la richesse, qui se sacrifient, etc., qui sont plus proches du peuple. Donc vous avez là encore un enjeu qui est de faire le lien entre le passé aussi et le présent, parce que ça c'est fondamental, hein, puisque le problème théorique du christianisme, c'est que c'est l'inscription dans le temps aussi. On a l'inscription dans l'espace, mais le Dieu apparaît à un moment de l'histoire, et même il sert de point de repère dans l'histoire. Mais plus on s'éloigne de sa naissance, plus on se perd, on le perd de vue. Donc il n'arrête pas de reconstituer des liens temporels et de réactualiser avec des figures intermédiaires au niveau temporel, au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau théorique, etc. Mais y compris, alors il y a le clergé, mais le clergé n'est pas forcément légitime, parce que si on le connaît, l'évêque ou le moine, etc., ok, il est légitime, mais on connaît ses défauts. Tandis qu'on va inventer aussi, et on va sanctifier les figures intermédiaires du passé, qui auraient eu des vies exemplaires, donc des martyrs, des saints, des évêques, des fondateurs, qui vont comme ça construire aussi et établir le lien dans le temps. Et ça, c'est aussi très clair au niveau du programme. Alors, Tchouf, médecin. Alors voilà, on va retrouver. J'essaie, les travaux, les jours, Saint-Nicolas, pourquoi je suis là. Les apôtres, Marie, ça c'est qui? Attendez, les prophètes, Saint-Sylvestre, l'art de gestion, la vue, Charlemagne, en détail, mais je vous montre quand même. Alors, Charlemagne, bon voilà, Charlemagne, c'est l'exemple même, non seulement de la généalogie, mais un personnage qui est inscrit dans le temps et l'espace. Donc la vie de Charlemagne qui constitue vraiment un repère très important. Alors, ouf. Et là, alors voilà, c'est celui-là, qui est quand même très important, et il fera le lien avec le chapitre suivant. C'est le vitrail des travaux et des mois. Et quand je vous disais, la question du temps se pose, il y a le temps depuis l'an 0, l'an 30, etc., Noël, le zodiaque, etc., mais il y a tous les jours, il y a le quotidien, il y a un rapport. N'oubliez pas que la cathédrale, c'est une sorte de tension maximale entre la réalité, le tangible, quotidienne, le caillou, la pierre, le lieu, le soleil, la lumière, des choses qu'on voit tous les jours, des gens, des silhouettes, et puis la divinité. Et là, on va relier les travaux avec le zodiaque, donc le cycle, avec l'idée que la Terre est bien ordonnée. Alors, sous nos climats, il y a bien 4 saisons, chacune de 3 mois, il y a 12 mois, donc le zodiaque, mais à chaque fois aussi une sorte de... On va ordonner la Terre, l'idée d'ordonner la Terre... Rappelez-vous que c'est quelque chose de très important, puisque Jésus apparaît en jardinier à Marie-Madeleine, c'est-à-dire qu'il apparaît ici avec une fonction, c'est de jardiner la terre, c'est-à-dire qu'on va ordonner la terre, donc les saisons et les jours, et puis les travaux, c'est une relier aussi du zodiaque, c'est encore aussi une manière de relier le travail de la terre au cosmos, il y a une sorte d'ordre, une mécanique là encore, une mécanique céleste et une mécanique terrestre. Alors les saisons et les jours, un peu comme les corporations, vont être aussi des vitraux très populaires, parce que là ça parle aux gens. Hein, les corporations c'était les artisans on peut dire, et là les saisons et les jours et les métiers, effectivement, eh bien ça va être quelque chose de que tout le monde alors là, reconnaît. Alors là c'est très identifiable, vous avez vu, un petit peu, c'est des images qui sont presque des logos, presque des signes, hein, de chaque période et chaque partie. Donc quand est-ce qu'il faut faucher, moissonner, vendanger, bêcher, là encore, on a pressé le raisin, tuer le cochon, etc. Donc vous avez, et à chaque fois, vous avez les mois. Hein, donc là encore, la combinaison entre la géométrie, les nombres, l'ordre du monde et qui a sa place aussi dans la maison. Alors là, on s'éloigne en fait de la religion, on peut dire, au sens strict du catholicisme. On est vraiment dans un rapport au monde, dans un monde ordonné où il n'y a pas de, vide, etc. Alors celui-ci, je ne sais plus ce que c'est, il faut regarder en détail. Alors Sainte Marguerite et Sainte Catherine, alors là c'est ce que je vous ai dit, alors là les saints, les saintes, alors il y a quand même pas mal de femmes aussi, parce qu'effectivement, on ne peut pas quand même, même si le Dieu est masculin, son fils masculin et la plupart des prêtres masculins, il y a quand même, d'abord, il y a beaucoup de moniales, il y a beaucoup de femmes abbesses, il y en a même qui sont des théoriciennes, il y en a qui vont être même, on verra, qui vont écrire des livres en enluminé, vous avez les béguines, vous avez quand même une bonne part de même des institutions qui sont portées par des femmes, et puis évidemment on ne va pas les éliminer parce qu'y compris ça fait la moitié de la population, donc il faut aussi, il y a une part de séduction et d'histoire des femmes avec des histoires d'héroïnes. Alors Catherine on la connaît, Marguerite, etc., qui résistent justement à tout cela. Alors Apollinaire, ça je passe. Saint-Nicolas, alors voilà. Saint-Nicolas, toujours plusieurs vitraux. Saint-Nicolas, Saint-Populaire aussi. En la Seine, je passe, etc. Alors, juste, voilà quelques photos qui vous montrent un petit peu, parce que là, en fait, les vraies photos face à face, en contre-jour, amplifient le phénomène lumineux. Je pense qu'on n'a pas toujours le soleil derrière, donc il n'y a pas toujours cet effet de contre-jour. Donc, on peut aussi voir le vitrail comme ça, qui, effectivement, là, on voit bien ce côté mur et fenêtre à la fois, délibéré. On voit bien la structure, et on voit bien le lien avec y compris le réseau de nervures de l'ensemble de la cathédrale. Là encore, la chapelle des martyrs, elle envoie bien cette idée-là, la variation aussi. Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est quand je vous dis la partie et le tout, les saisons et les jours, les travaux, le zodiaque, donc on a une totalité, mais fragmentée en 12, eh bien, les vitraux sont tous sur la même structure, répondent tous à peu près aux mêmes lois, mais ce sont aussi des variations d'ordonnance, de taille, de dimension, des jeux géométriques, à chaque fois des interactions. Regardez comment les cercles sont inscrits, là, par exemple, les demi-cercles dans deux carrés, parfois ils sont dans quatre carrés, parfois ils vont déborder, ils sont dans un carré. Donc vous avez des jeux aussi d'échelles qui fonctionnent à l'infini. Et voilà, chapelle des saints, et un séraphin. Alors, il y a les vitres hautes qui sont plus difficiles d'accès et elles qui ont souvent des figures un peu plus lisibles. C'est moins narratif, mais on va voir surtout des figures comme par exemple des séraphins, des anges. Alors on est moins dans la didactique, si vous voulez, on est moins dans le programme, on est plus dans quelque chose d'aérien, comme par exemple ici ce séraphin très beau, avec ses plumes magnifiques. Alors voilà justement les vitres hautes, les verrières hautes, qui elles sont quasiment, comme elles sont plus difficiles de lecture, elles ont des figures souvent un peu plus grandes, avec des échelles plus grandes. Alors, je vais sortir progressivement pour vous donner les variations autour du vitrail. Par exemple, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est en Italie, parce que là, on est vraiment l'art dit français. En Italie, vous avez aussi quelques vitraux, mais ce n'est pas trop le truc des Italiens, on verra ça plus tard aussi, parce que, je vous ai dit, en Italie, c'est plutôt l'art des murs et des fresques, et y compris avec une continuité depuis quasiment les fresques de l'Empire et de la République romaine. Il y a une continuité de la fresque en Italie, donc du mur, et ce n'est pas du tout un art nordique comme ça. Mais il y a quand même certains artistes qui ont fait des vitraux, comme par exemple Duccio. Duccio qui est un des maîtres de Giotto, donc on est à peu près à la même époque, 13e, 14e siècle. Mais regardez, ça ce sont des vitraux, mais ça c'est, voilà ce que donne la peinture, on va dire, gothique en Italie à la même époque de Chartres à peu près, même un peu plus tardif, enfin encore que à quelque chose près c'est quand même ça. Alors vous voyez que là ce que les Italiens vont faire pour aller dans le sens que disait monsieur Séguier, c'est que malgré tout vous avez des figures qui sont tout à fait lisibles, mais elles sont quand même dans un cadre quand même géométrique, ordonné, toutes ces parties forment un tout, et au lieu de remplir avec la géométrie et des couleurs est saturée, mais on va remplir avec de l'or. On va donner quand même une valeur miraculeuse, lumineuse, et aussi qui a la double nature, comme les vitraux, à la fois matière et à la fois lumière. Puisque l'or, c'est le minéral qu'on trouve sous terre. Une fois épuré, tout d'un coup, il devient lumineux comme le soleil. C'est-à-dire que l'or, il a exactement la même vocation ici, il participe, c'est le même principe que la lumière des vitraux, mais là, on est sur du plat. Et ça donne aussi quelque chose de précieux. puisqu'effectivement, même dans les bijoux, ben, soit vous avez du cloisonné, des vitres, etc., le travail, la valeur ajoutée, ça va être le travail, la quantité, ça va être la matière pure, l'or ou le rubis, etc. L'idée, c'est aussi comment densifier, comment donner de la valeur à quelque chose. Soit la valeur objective, la valeur d'objet, l'or, soit le travail et la quantité. Le vitrail, c'est travail et quantité, parce qu'on peut dire les bouts de verre tout seuls ne valent pas grand-chose. Mais ordonner, travailler, représenter, ça va densifier la surface. Là aussi, les œuvres italiennes, comme par exemple la Maestà ici de Duccio, c'est quand même plus petit qu'un vitrail. Hein. Mais il y a des points communs aussi avec le vitrail qui sont assez drôles. C'est que là, vous le voyez, c'est vraiment une sorte de mini, enfin mini, c'est pas si petit que ça, hein. Mais c'est ni mur, ni fenêtre, ni tableau, ni triptyque, parce qu'en fait, c'est, vous pouvez en faire le tour. C'est presque une sorte d'architecture, c'est presque comme une sorte de meuble, pas de meuble. C'est-à-dire qu'il est à la fois peinture et architecture à la fois. Le vitrail est mur et fenêtre, et ça, c'est à la fois peinture et presque objet. Hein, donc, il y a une présence autonome. Et ça, c'est très clair. Et on le voit quand même. Alors ça, c'est drôle, parce qu'on voit bien que c'est la tradition gothique, mais à l'italienne. Donc, on va voir quand même des pinacles et des arcs brisés, ici, qui font référence quand même au style gothique et à la dynamique gothique. Hein, ça, c'est assez clair. Alors, par contre, là, il y a quand même la crucifixion au centre. Et ça, c'est assez clair. Alors, les arbres de Gessé, juste pour vous montrer que c'est aussi une thématique qu'on va retrouver. Là, je fais des petites variations. Là, il y en a plein. C'est quelque chose qui est très populaire et qu'on va retrouver dans plein d'églises. Par exemple, à Saint-Denis, ça, on l'avait vu. Donc, Saint-Denis, on peut dire là, point de départ de l'iconographie et de la théorie un petit peu du vitrail et de la lumière avec l'abbé Sugère. Certains disent sujet, mais c'est plus joli de dire Sugère. Alors je vous ai présenté aussi Angers l'autre fois, mais là aussi on a encore un arbre de Gessé qui est essentiel à Angers. Hein, on le voit encore. Et Angers, rappelez-vous qu'on est lié aussi à Aliénor d'Aquitaine. Et donc à Sugère, puisque Sugère est conseiller d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, rappelez-vous qu'elle est enterrée à côté d'Angers à Fontevraud. Et donc vous avez un lien, même, là encore géopolitique. Hein, c'est pas... Et l'idée aussi des généalogies, c'est pas un hasard si on trouve ça avec à Angers, ce thème du vitrail et de l'arbre de Gessé. Alors voilà d'autres aussi dans les sculptures. Et là on voit bien ce que je vous disais, c'est comment est-ce que le motif de l'arbre se fond littéralement et se continue parfaitement dans la cathédrale. Et on retrouve cette idée d'une nature ordonnée aussi. C'est que l'arbre un petit peu sauvage devient un arbre symbolique, qui devient un arbre de pierre, qui devient le vaisseau, etc. etc. Et là, bon, c'est tout bête, mais le rapport, bon, ça serait un autre travail, mais le bois, sans le bois, vous n'avez pas de charpente, vous n'avez pas de cathédrale. Hein, donc, je ne sais pas. Il ne faut pas chercher plus loin. Sans arbre, il n'y a même pas le bâtiment lui-même. Vous voyez la flèche ici, hein, presque comme si l'arbre sortait des flèches. Alors celui-ci, ça c'est tout, c'est à Beauvais. Là, à Chartres, ça on l'a vu. Ça, un arbre de chez, alors j'en ai fait plusieurs, à Issoudun. Hein, donc c'est quelque chose de très populaire. Alors ici, vous avez vu aussi le pauvre Gessé qui est ici, comme alien, un arbre qui lui sort du vivant. Là, vous avez un arbre de Gessé au Mans. Alors, la cathédrale du Mans, elle est bizarre, mais je ne sais pas si vous connaissez le vieux Mans, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et la cathédrale, alors, comme ça, elle n'a pas l'air très belle, mais en fait, à l'intérieur, elle est magnifique. Et on retrouve encore l'arbre ici, hein, avec cette espèce de séquence comme ça qui monte et qui triomphe. Donc, l'arbre de Gessé est très répandu. Vous avez même, j'ai trouvé ça à Lyon, à Saint-Vincent, des fresques et des peintures. Donc, c'est vraiment. Ça vaudrait presque le coup d'aller. Chercher et de faire une collection de tous les arbres de Gessé. Là, c'est juste un petit aperçu. Et jusqu'en Roumanie, alors je ne sais pas si vous connaissez cette église extraordinaire en Roumanie qui est sous Cevita, au bout, le motif principal de la décoration extérieure, c'est cette espèce de gigantesque généalogie que l'on trouve ici, avec justement ces réseaux, ces liens, ces variations. Puis on se balade aussi dans ces espèces de... Et c'est à l'extérieur, celle-ci. Un arbre généalogique au plafond, ici, ça c'est à Hildesheim, hein, en Allemagne. Alors cette fois-ci, c'est beaucoup plus coupé. Mais vous avez cette idée aussi d'une continuité. Alors j'en parle parce que on en avait parlé dans le Beatus de Libana, et j'en reparlerai quand on verra aussi Michel-Ange et cette idée de la généalogie comme quelque chose qui est important. Hein, ah, ça. que je suis bête aussi, j'aurais dû vous le dire, mais c'est évident. Je vous parlais du rapport au temps. Donc, l'arbre, évidemment, généalogique, ça permet de faire le rapport aussi, l'inscription dans le temps, depuis les points de départ. Donc, je vous ai dit qu'il y avait cette espèce de généalogie princière, généalogie divine, généalogie aussi des rois, des reines, etc. Et puis, généalogie aussi, l'histoire de l'Église, qui aussi s'inscrit dans le temps, avec ses saints, ses martyrs, etc. Donc, on a un mode de pensée, en gros, au Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, si vous voulez, il y a deux modèles, en fait, presque scientifiques. Il y a la symétrie et les formes géométriques pures, les cercles, les triangles, les carrés, les pentagrammes, les hexagones, etc. Depuis Platon, avec les volumes simples, donc tout ce qui est symétrique, pur, etc., mais qui est un peu stable. Et puis, vous avez tout ce qui est dynamique, ça sera traduit la plupart du temps par l'arborescence. Le modèle de l'arbre, effectivement, et de la croissance. Alors, au sol, en hauteur, tout ce qu'on veut. Et ça, on le retrouve dans tous les manuscrits. Alors, on a encore un arbre à Angers. Et voilà un petit ensemble pour avoir quelques présentations un peu vastes des vitraux. Alors, attendez. Alors, comme c'est un monde... Allez. Pourquoi je trouve plus... Ah. Je révise. Qu'est-ce que c'est ? Ben c'est fini, peut-être. Pourquoi je ne le trouve plus ? Voilà. Je crois que là. Voilà, j'ai à peu près. Donc alors, je vous invite à aller regarder d'autres choses. Ah oui, juste. Ben, je termine, tant pis. Et les bijoux, je vais parler des bijoux. C'est intéressant parce que l'art des bijoux, alors, hélas, je n'ai pas trouvé assez, mais. Ce qu'on appelle des châsses, justement, qui servent à enfermer des reliques précieuses. Et bien souvent, ce qui est intéressant, et ça on le voit très clairement... Ah mais que je suis bête, j'ai un autre truc à vous montrer sur le vitraux. Je termine aujourd'hui sur le vitraux, je n'ai pas commencé le reste. La châsse enferme les reliques, et donc souvent, d'ailleurs, les châsses servent y compris de noyaux, de cœurs, pour les constructions d'édifices sacrés. Et c'est intéressant, parce que là on est aussi... presque microcosme, macrocosme, parce qu'on a encore la châsse elle-même est presque comme un petit temple, et dans lequel on retrouve surtout, c'est là où je voulais vous dire, le principe du cloisonné et là de l'or. C'est qu'à la fois objet, mais aussi la densification par le principe ici du réseau, hein, et l'art du cloisonné au niveau des bijoux, on va sertir en or et à l'intérieur on va couler du verre, c'est quelque chose qu'on trouve dans les bijoux, dans les châsses, hein, dans les reliquaires, qui aussi sont présentés, regardez, comme des espèces de petites chapelles. Hein, c'est une petite chapelle. Donc en fait, que ça soit en petit ou en grand, il y a toujours cette idée aussi d'un contenant sacré. En fait, une église, c'est un contenant sacré. Et qui va vous contenir comme la relique, le reliquaire contient les reliques du saint ou de la sainte, etc. Et on retrouve, alors là, c'est très très clair dans ce reliquaire, le bleu et l'or, qui sont en gros, si vous voulez, les éléments qui vont être les plus associés à la lumière. Le ciel ou le soleil, évidemment. C'est pas nouveau. Chez les Égyptiens, vous avez déjà le bleu et l'or, et déjà des bijoux qui sont privilégiés, et qui, la plupart du temps, sont d'un côté, on va dire, un peu métaphysique. Hein. Le bleu, c'est l'espèce d'immatérialité que l'on peut voir, et l'infini dans le ciel, ou sur l'eau, d'ailleurs. Et l'or, c'est ce minerai qui devient lumière pure, etc. Donc, c'est pas non plus un choix hasardeux. Alors, sinon, quand même, quand on parle d'art nordique, ben, les arts celtes, vikings, etc., on voit bien le thème de l'entrelac, et ce que je vous disais, hein, le cloisonné, c'est les nervures métalliques dans lesquelles on coule, mais qui servent aussi de modèle, souvent, au remplissage des vitraux. Parce que là, il n'y a pas de vide, on ne peut pas faire le fond des vitraux en or, c'est fait ainsi. Alors, maintenant, je termine réellement avec quelques variations sur d'autres vitraux célèbres, Ferrière-Rode, vitraux variés, voilà. Tchouk. Alors, bon, ça, je vous ai parlé, Bourges, Saint-Nectaire, c'est autre chose, Metz, Paris, ça, on a vu. Alors, à Sainte-Chapelle, dont je vous ai parlé, si vous n'y êtes pas allé, allez-y, je vous conseille de préférence un matin, parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Alors, justement, à propos des reliques et des reliquaires, pourquoi ça s'ouvre ça ? La Sainte-Chapelle est conçue comme un reliquaire, en fait. C'est un reliquaire. C'est une châsse, mais royale, puisqu'elle est sur l'île de la Cité, tout près du palais du roi. Le roi de l'époque qui fait construire la chapelle, c'est Louis IX, qu'on le voit ici en train d'aller chercher à Sens les reliques, les saintes reliques qui seraient venues de Proche-Orient, donc la couronne d'épines, on la voit très clair, un morceau de la croix, la lance, et je vous ai raconté que moi j'avais vu ça, mais j'ai jamais retrouvé que normalement à la Sainte-Chapelle, il y avait aussi du lait de la Sainte Vierge et le prépuce de Moïse. Et au début, je me suis dit, le prépuce de Moïse, bébé, on ne va pas garder son prépuce. Mais non, Moïse, il a été circoncis beaucoup plus tard, puisqu'il était élevé chez les Égyptiens. Donc, quand Moïse est circoncis, il est déjà adulte et on récupère, il est jeté dans le désert, il est séché par le sable chaud du désert, donc le prépuce ne pourrit pas. Et donc, ça c'est une reluque. Et le lait de la Sainte Vierge, alors, il y a ce qu'on appelle les églises ou les chapelles lactes. Je ne sais pas, il y a un terme pour désigner, pas lactaire, en tout cas. Mais tu as dit qu'il y a ces chapelles qui seraient construites, ou ces églises, sur des fioles, il y aurait du lait de la Sainte Vierge. Alors, le lait de la Sainte Vierge, on le faisait souvent avec du plâtre, avec de l'eau, mais voilà. Et puis, le mythe, alors là, on a le mythe sexuel, alors Freud a plus... Bernard de Cîteaux, par exemple, qui a, à la même époque, qui a créé l'ordre des Cisterciens, en vision, il était en extase devant Marie, et il s'imaginait qu'il était arrosé du lait de la Sainte Vierge, donc. Vous avez des fantasmes assez, assez gratinés dans, quand on regarde les mystiques et les traditions. Tu vois-t-il que, et ils y croient quand même, parce que Saint Louis Louis IX va en procession jusqu'à Sens, il reste longtemps à Sens, Sens où avait été Thomas Becket, etc. Et donc on le voit en train de recevoir les reliques. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Et l'idée, effectivement, à la Sainte-Chapelle, c'est de faire peut-être là, c'est l'aboutissement absolu de l'art du vitrail, de la nervure, de la légèreté, des couleurs, et là c'est vraiment la chapelle cette fois-ci royale. Vous voyez bien que de l'art populaire jusqu'à la royale, c'est la même technique. Ça, de ce point de vue-là, c'est intéressant. On voit qu'il n'y a pas un art pour les riches ou les princes, et un art populaire, c'est une solution de continuité totale. Celui-ci est peut-être plus abouti, hein, puisqu'on le voit ici, là vraiment. Mais on voit bien l'esprit pur du gothique, c'est effectivement de faire disparaître les murs, de faire disparaître complètement la pesanteur au bénéfice cette fois d'une lumière absolue. C'est une verrière totale. De l'extérieur, on ne réalise pas, parce que comme je vous ai dit, hein, le gothique, c'est des murs comme ça, mais qui ont pivoté, donc ils sont perpendiculaires. De l'intérieur, on ne voit pas. De l'extérieur, bon, on n'imagine pas que ça soit à ce point lumineux. Alors, là, c'est quelque chose qui a grandi un peu, hein, parce que c'est quand même pas si grand que ça.
D'un côté, c'est pas très lumineux, parce que c'est tout près de...
Voilà. Voilà, là, là on est proche, mais ça donne un peu la structure et cette espèce de légèreté, là, l'aboutissement incroyable, comme je dis, les nervures et l'arborescence. Et là, on voit bien qu'il n'y a plus de chapiteaux, sauf des tout petits chapiteaux, mais qui n'ont plus de fonction. Et là, l'élan vertical et la finesse est assez évident. Et là, voilà, une autre photographie. Alors, c'est un peu en grand angle. Ce qui est très bien, c'est que vous avez des petits bancs sur les côtés, vous pouvez vous asseoir et regarder. Alors, c'est là où, je veux dire, bon, si on est myope, ben on a beaucoup de chance. Et tout d'un coup, on voit les couleurs se mêler, parce que là, on a surtout des couleurs primaires, très peu de vert. Hein, et voilà. Alors, cette Sainte-Chapelle aussi, c'est intéressant au niveau de la structure gothique, parce que je crois que j'ai ici la partie basse. Non. Mais j'ai d'autres photos. En fait, on voit très bien qu'elle est anticipée. Vous rentrez par en bas, c'est une chapelle basse, qui est toujours croisée... voûte d'arête et puis arc brisé, arc d'ogive, mais beaucoup plus massif parce que la partie basse a été construite pour construire la partie au-dessus. Ça, on le retrouve partout. Hein. On le retrouve même au Mont-Saint-Michel, la crypte des gros piliers, c'est assez fascinant si vous êtes allé voir l'abbaye du Mont-Saint-Michel, parce que la crypte des gros piliers, elle soutient le chœur, elle a été faite mais des dizaines d'années auparavant, mais en anticipation de ce qu'il allait y avoir au-dessus. C'est-à-dire que chaque pilier énorme, ce ne se justifie que parce qu'ils savent que, je sais pas, 20-30 ans plus tard, il y aura le cœur au-dessus. Ça aussi, c'est quand même assez émouvant de se dire qu'ils construisent des choses en se projetant dans le temps, complètement. Et les autres, ils font confiance dans la solidité de la crypte, ils y vont. Hein. Oui. On est au sommet du pointe du Mont-Saint-Michel, ils ont fait une crypte qui est suffisamment solide pour porter le reste. Donc, il y a vraiment, là aussi, des véritables génies de la construction. Et on peut dire que la Sainte-Chapelle, c'est un aboutissement technique absolument... prodigieux de ce point de vue. Alors, ça a été repeint et rénové. Hein. Là, c'est évidemment au 19 ou 20e siècle. Alors, le programme des vitraux de la Sainte-Chapelle, je ne le connais pas, mais on va retrouver en général les classiques. Donc, la Sainte-Chapelle, et puis, bon, Poitiers, je dis, ben, Paris, Bourges, bon, ça c'est très bien aussi. Mais je sais très bien. Reims aussi. Vitrovarier, ça j'ai vu, le manuscrit. Alors oui, les donateurs et les corporations, un petit détail un peu marrant, justement, parce que... Je sais pas si... Alors, j'ai retrouvé ça sur Internet. Alors, vive Internet, parce que quand j'étais petit, il y avait des cartes comme ça. C'était, je crois que c'était les pharmaciens qui distribuaient ça. Et ça me fascinait. C'était les corporations. Moi, je ne connaissais pas Chartres. Et vous aviez chaque carte postale des corporations qui est présentée. Donc, alors, dans le boucher ici. Alors, avec un truc, vous avez vu. Alors là, quand je vous disais, dans les vitraux, je vais montrer les grandes images. Mais quand on regarde de près, il y a une véritable indication très précise sur les métiers. Hein, comme ici, par exemple, le boucher. Là, vous avez les changeurs, hein, l'argent, la monnaie. Là, vous avez les armuriers. Et ils sont tous. Alors, à chaque fois, c'était intéressant parce qu'ils étaient tous dans... et même ces petites cartes indiquaient très précisément dans quel vitrail on retrouvait ces corporations. L'aubergiste, comme un métier, Airbnb. Là, vous avez les boulangers. Et là, vous voyez, alors, je ne vous cache pas que ça fera la transition directe avec le chapitre suivant sur, justement, l'art du bien-vivre, un petit peu. Mais ce qui est marrant, c'est aussi de voir que quand ils veulent, ils savent très bien retrouver une dimension presque narrative et imitative. Hein. Regardez, par exemple, les plis des pattes, les pattes qui sont suspendues ici sur le truc, le geste, et même l'effet de profondeur qui est mis ici, ce qui fait que même les plis, donc... On voit bien que ce n'est pas du tout par maladresse que le reste est conçu comme ça. C'est vraiment un arsenal théorique, cette manière de représenter et les corps, et la lumière, et la distance avec la nature. Et dès qu'on se rapproche du quotidien, alors là, voilà, c'est vraiment des photos des vitres eux-mêmes, le boulanger avec le four à pain, les boules, les pâtes, il y a quelque chose de très, très assez touchant. Les charpentiers, évidemment. Le charron. Et ça, c'est... Alors là, c'est du tissu, je pense. Les fourreurs. Les fourreurs, c'est la fourrure. Donc, fourreurs. Là encore, je crois que c'est les porteurs de la manne. Ah, maintenant, ça, c'est assimilé au boulanger. La manne dans le désert. Là encore, le boulanger. Donc, il y a plusieurs. Vous voyez, dans le boulanger, il y a plein de trucs. Hein. Là, c'est cordonnier, épicier, etc. Maître imagier. C'est-à-dire que là, on les voit... C'est assez rare, on les voit en train de sculpter. Donc, alors par contre, est-ce qu'on voit le vitrail dans le vitrail en train de se faire dans le vitrail? Je ne sais plus. Marchand de poissons, ordre alphabétique, etc. Marchand de tissus. Alors, sans doute un petit bonnet pointu, c'est peut-être vu comme un juif qui montrerait, puisque rappelez-vous, il a des bonnets pointus. Marchand de vin. Le tripalium, le travail, les charrons, etc. Donc, il y a énormément d'indications. Alors, voilà la version un peu imagée, etc. Donc, tous ces vitraux, alors ça peut être un jeu aussi d'aller repérer parce qu'ils étaient payés par les corporations, donc on a encore ce lien. Bon, ben voilà, alors, sinon, je vous rappelle ceux qui veulent, si vous avez une clé USB, je faisais ça déjà, vous m'amenez une clé USB et je vous copie les documents. Oui. Par contre, il faut mettre dans une enveloppe avec votre nom, si possible, sans virus. Et en général, d'une semaine sur l'autre, je peux vous le faire. Alors, comme je n'ai pas tout organisé les cours à venir, par contre, je peux déjà vous faire ceux qui sont passés. Vous pouvez choisir d'attendre un peu ou donner régulièrement. Donc, voilà.